Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43, vous nous écoutez à la radio sur RMC, vous nous regardez à la télé sur RMC Story. Et c'est l'heure de commencer cette journée d'hommage. Cette journée d'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Ça commence à 11h30 officiellement, mais c'est toute cette journée où l'on se souvient, de ce qu'il s'est passé il y a 10 ans. Bonjour Arthur de nouveau.
Bonjour Apolline.
Vous êtes l'un des rescapés du Bataclan, vous présidez l'association Life for Paris. Life, la vie, et vous témoignez jour après jour, vous témoignez aussi dans ce livre que j'ai sous les yeux, Vivre après le Bataclan, c'est publié aux éditions du Cerf. Il y aura cette cérémonie, vous y serez évidemment tout à l'heure, cérémonie nationale, qui 10 ans après va être retransmise, y compris à la télévision. C'est important pour vous, mais les cérémonies, quand on est justement dans la vie, comment on les traverse ?
Écoutez, ces cérémonies, c'est un moment d'unité. Il faut voir quel périmètre. On a l'habitude de le faire entre nous, victimes, avec des politiques et un cordon de sécurité incroyable, en sentant qu'il y a une émotion globale autour, mais qu'on n'arrive pas tout à fait à rejoindre. Et c'est justement l'objectif cette année, c'est de se dire, soyons tous ensemble, ayons ce moment d'unité nationale. Célébrons évidemment nos morts, mais aussi la force de notre République et de notre culture. Les terroristes n'ont pas gagné ce soir-là, et c'est ce message-là qu'on veut faire passer, à la fois dans l'émotion, mais aussi dans une forme de joie vis-à-vis de la force de la France.
La force de la France, vous le dites beaucoup, vous, vos camarades d'infortune, mais qui sont pour beaucoup devenus vos copains.
Bien sûr.
On sent cette énergie d'ailleurs, les terroristes n'ont pas gagné ce soir-là, dites-vous. La difficulté en même temps, c'est quand on voit qu'il y a encore des personnes qui se revendiquent de cette idéologie, quand on voit qu'il y a cette compagne de Salah Abdeslam qui vient d'être mise en examen et qui, semble-t-il, projetait, idéalisait encore des attentats. Comment on fait quand on a vécu ça ?
C'est pas facile de voir ça. Je crois que ce qui rejoint toutes les victimes de terrorisme, quelle que soit leur origine, leur parcours, leur croyance, c'est l'envie que ça n'arrive à personne d'autre. Et quand on voit qu'il y a encore des terroristes, malgré nos témoignages, qui se disent « ça va servir ma cause de faire du mal », je vous avoue qu'on peut avoir une petite déception en l'humanité. Après, on a appris en 10 ans à regarder le bon côté des choses, c'est-à-dire ce que nous, on arrive à produire, tous ces livres, ces documentaires, ces séries. C'est une manière de dire, mais attendez, face à leur nihilisme et à ces projets d'attentats mortifères, nous, on est capable de rajouter un surcroît de vie. Et je crois qu'on a vraiment essayé d'incarner le survivre et de montrer aux gens qu'en fait, c'était vraiment incroyable de pouvoir être vivant dans une démocratie.
Et je vous en remercie profondément. Je crois qu'on le ressent tous, cette énergie, effectivement, ce partage que vous avez avec nous, avec nous autres Français, qui partageons bien sûr votre émotion aujourd'hui. Vous allez d'ailleurs passer une partie de la journée avec les autorités, comme vous disiez, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, les discours, les autorités politiques, les cordons de sécurité. Cette question de la sécurité, depuis, il y avait eu Charlie Hebdo, il y avait eu l'hypercacher, il y avait eu, même si on remonte, Mohamed Merah, nos vies ont changé, y compris dans notre façon d'appréhender le quotidien. Vigipirate, que l'on remonte, que l'on redescend. Comment vous appréhendez cette question-là aussi ?
Depuis 2015, on sait qu'on a fait d'énormes progrès en matière de sécurité. C'est-à-dire que la réorganisation des services de renseignement, une meilleure collaboration, d'autres outils à la justice permettent d'éviter l'attentat. Beaucoup. Il y a malheureusement encore des victimes, mais beaucoup moins. Et donc, on se sent plus en sécurité. En revanche, comme vous le dites, il y a Vigipirate. Moi, quand on me parle de génération Bataclan, je parle de génération avec un S, Vigipirate. J'ai 39 ans, j'ai donc connu 30 ans de Vigipirate. Et ça, ce qui m'effraie, c'est qu'il n'y a plus de débat sur mais comment est-ce qu'on fait pour plus avoir besoin de Vigipirate. Et il y a un renoncement derrière ça qui est assez frustrant pour nous. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on empêche les attentats qu'on est en train de lutter contre la partie politique du terrorisme. Et ça doit être le combat des années à venir, à mon sens.
La partie politique du terrorisme, vous estimez que, au fond, on fait en sorte qu'il y ait moins de passage à l'action ou à l'acte, mais la radicalisation, mais l'idéologie de mort, elle est là.
En tout cas, moi, c'est ce que je comprends de tout ce que nous disent les autorités ces derniers jours. C'est-à-dire que le pool de recrutement de djihadistes chez des jeunes Français qui n'ont pas quitté le territoire a l'air d'être toujours aussi gros. Et ça, quand même, ça doit nous interroger en tant que société. Et c'est très bien de commémorer, c'est très bien d'être dans l'émotion, c'est très bien de dire « attention, on va vous protéger ». Mais la question fondamentale, je crois que c'est de dire, il faut que le projet politique de la France soit compris par tous les Français et qu'on coupe l'herbe sous le pied des recruteurs djihadistes. Et ça, soyons honnêtes, on n'y arrive pas. Je crois que c'est un problème de temps long et on a des politiques qui font que du temps court.
Ça, c'est très dur ce que vous dites à l'instant. Et promis, moi, en tant que journaliste politique, j'aurai cette phrase en tête. On a appris cette semaine par l'intermédiaire de son avocate que Salah Abdeslam, donc seul survivant du commando islamiste, disait vouloir ouvrir une porte aux partis civils et aller vers une justice restaurative, c'est-à-dire pouvoir parler. Est-ce que vous vous dites oui, moi je suis prêt à parler avec lui, ou est-ce que vous décelez peut-être une forme de cynisme? Comment vous accueillez cette idée-là?
Bah, moi, la grande différence avec la plupart des Français, c'est que Salah Abdeslam, je l'ai déjà vu, et en fait, je lui ai déjà parlé à mon procès, et quelque part, il m'a déjà parlé. Par exemple, la trésorière de mon association était allée le voir à la fin d'une audience, et ils avaient eu un tête-à-tête de quelques minutes où ils avaient pleuré tous les deux. Donc, moi, j'ai pas cette énorme barrière psychologique de me dire, mais qu'est-ce que c'est de parler à Salah Abdeslam? En pratique, si j'étais face à lui, je sais pas de quoi on parlerait, justement parce que le procès a bien fonctionné. Et donc, j'entends une partie de mes adhérents me dire, moi, ça m'intéresse d'aller parler à des djihadistes pour comprendre, pour leur expliquer ce que j'ai ressenti. Ils font pas de fixation sur Salah Abdeslam. Je pense que certains le rencontreront peut-être et ainsi de suite. On peut pas priver Salah Abdeslam du droit à vouloir parler aux victimes. Et si des victimes veulent le faire, tant mieux pour elles. Chacun son chemin de reconstruction. On est vraiment dans la bienveillance là-dessus. Après, il faut être très prudent, en effet. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une rencontre entre quelqu'un qui est enfermé dans une idéologie et une victime qui est enfermée dans son malheur? Beaucoup de prudence là-dessus pour que ce soit pas un rêve qui tourne mal quelque part. Et par rêve, je veux dire une espèce d'illusion.
Un idéal
qui se passe mal. Mais en tout cas, la question de la justice restaurative, elle a quand même très bien fonctionné avec ETA. Elle a très bien fonctionné aux années de plomb en Italie, mais c'était un terrorisme beaucoup plus local. Donc voilà, il faut voir si ça peut marcher avec les djihadistes.
Un terrorisme dont on se disait qu'il avait eu un début et une fin, et c'est aussi la réserve du parquet national antiterroriste qui dit qu'il faudrait d'abord un renoncement réel et officiel de ces djihadistes à l'utilisation de la violence et au radicalisme avant de pouvoir effectivement parler.
Voilà, et c'est pour ça qu'il faut ces institutions qui fassent de la médiation entre les terroristes et les victimes pour dire « Attendez, nous on regarde ça avec du recul et on vous dit que là c'est peut-être pas le bon moment ».
Vous allez dissoudre votre association aujourd'hui, ça veut dire que c'est une page qui se tourne?
Exactement. On a fait tout ce qu'on avait prévu de faire quand on l'a créé, se regrouper, s'aider à aller mieux, aller devant la justice, et puis créer ce jardin mémorial. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On peut pas à la fois dire que on veut plus être victime et garder une association de victimes active. Et donc, pour résoudre cette contradiction, on s'est dit qu'on allait finir sur une note la meilleure possible, et on garde nos amitiés. Mais on n'a plus besoin de ça pour avancer.
Plus besoin de cette association. Merci beaucoup, Arthur Desnouveau. Votre livre, ça s'appelle Vivre après le Bataclan. C'est aux éditions du Cerf. Merci pour la manière dont vous êtes, au fond, les ambassadeurs d'une vitalité française qui nous a tous émus et qui continue à nous émouvoir. Je vous signale d'ailleurs qu'RMC a produit un documentaire avec des archives, des témoignages des survivants 10 ans après. C'est à découvrir sur rmc.fr et sur le compte YouTube d'RMC.